à tous et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'apprendre le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On aborde notamment les thèmes du changement climatique, de la transition écologique et du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou que l'on s'installe à l'étranger. Pour en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes des épisodes, rendez-vous sur le site du podcast. Une petite annonce avant de continuer. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué que le podcast qui s'appelait anciennement Globe Cleaners vient de changer de nom. Rassurez-vous, même si le nom a changé, les thèmes abordés restent les mêmes. Aujourd'hui, je reçois Adeline. Amoureuse des animaux et de la nature, après ses études en soins animaliers, Adeline est partie rencontrer des acteurs de la protection animale sur le continent africain. Elle a partagé avec franchise les bonnes et mauvaises surprises qu'elle a découvertes une fois sur place et les écueils à éviter pour ne pas soutenir l'exploitation animale, particulièrement lorsque l'on voyage. Depuis quelques années, elle entreprend des voyages slow, notamment à vélo, avec son compagnon, et nous donnent leurs conseils pour bivouaquer en toute sécurité. On a également échangé sur de nombreux autres sujets très enrichissants, comme l'anarchisme vert, le végétarisme, ou encore comment inspirer ses proches à changer leur mode de vie. J'espère que notre discussion vous inspirera. Bonne écoute! Bonjour Adeline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours ?
Je m'appelle Adeline, j'ai 28 ans et je suis autrice du blog belettrousse.fr sur lequel en fait je parle consommation responsable. Alors à la base c'était un blog de voyage, donc c'était par rapport à mon voyage en Afrique quand je suis partie en 2015 pendant 6 mois en Afrique pour m'intéresser à tout ce qui est éthique animale sur le continent. Et ça a un peu dérivé sur la conso responsable en rentrant en France et de l'éthique animale, mais plus sur le sujet national du coup.
C'est ton emploi actuellement ?
Non, pas du tout. À côté de ça, j'ai fait des études en communication numérique, donc social media manager, ce genre de choses, community manager, etc.
Comment ça s'est fait pour toi, ta prise de conscience écologique ?
C'est une petite histoire un peu drôle parce que en fait j'étais allée au cinéma, je crois que c'était en janvier 2015 ou décembre 2014 pour aller voir un documentaire au ciné. Je crois que le documentaire s'appelait Nature, je me souviens même plus exactement du titre, mais en gros c'était un documentaire sur la planète comme on en voit beaucoup à la télé. Et puis en sortant, je me suis dit il faut vraiment préserver ça. Enfin, j'avais déjà la fibre un peu écolo, j'étais déjà sur la pente végétarienne, on va dire, et puis je m'intéressais quand même aux animaux, à la nature, etc. Et à partir de là, en fait, en sortant du ciné, je me suis dit, je vais partir en Afrique. Il faut que je vois ce qui se passe là-bas directement. Il faut savoir que à cette époque, je faisais des études de soins animaliers dans les parcs zoologiques. Donc, j'avais bossé dans les parcs zoologiques. Et puis, pendant 6 mois, j'avais fait différents parcs. Et en fait, j'avais eu un peu la prise de conscience de me dire « C'est cool de s'occuper des animaux sur le territoire, mais ce serait quand même un petit peu plus cool de voir comment ça se passe dans leur milieu naturel, parce que c'est là où ils devraient être et ils ne devraient pas être dans les eaux. » Donc, à partir de là, il y a tout qui s'est enclenché. Et il y a tout qui s'est qui s'est un peu déroulé en fait dans ma tête. C'est parti de l'éthique animale pour ensuite aller vers la consommation responsable et tout ce qui est enjeu écologique.
Et du coup, toi aujourd'hui, tu es végétarienne, végane ?
Je suis végétarienne, je mange encore du fromage parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à arrêter. Surtout quand t'habites à la montagne, c'est un peu compliqué parce que la fondue, etc. Bon, je sais que c'est pas une excuse, mais t'en as quand même à toutes les sauces. Et du coup, végétarienne, ma grosse tendance végane à la maison. Enfin, il n'y a pas beaucoup de fromage et il n'y a pas de laitage à la maison.
J'aimerais bien revenir un peu sur ton expérience, du coup, en Afrique. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, en fait, exactement ?
Alors, en fait, je suis partie en septembre 2015 avec l'idée de rencontrer des acteurs de la protection animale là-bas. Bon, ça a quand même été assez compliqué parce que c'est compliqué de rencontrer des gens en Afrique, en fait, enfin, sur le continent africain. Donc, je suis partie au Rwanda. Et dès que je suis arrivée au Rwanda, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais déjà contacté des associations en amont, dont l'association Gorilla France, que j'invite tout le monde à suivre parce que c'est vraiment super intéressant ce qu'ils font comme travail. Et Fabrice Martinez, le directeur en fait de Gorilla France, m'avait dit que en septembre justement il y avait une conférence. Et en gros dans cette conférence là, il parlait de la gestion des populations de gorilles. Et juste derrière, tu avais une cérémonie qui s'appelle Quitta Isina. Donc, une cérémonie qui revient chaque année sur le baptême des bébés gorilles. Et il m'a dit, moi, j'y suis pas, mais toi, vas-y en mon nom à moi. Donc, tu seras mandaté par l'asso pour aller voir ce genre de choses. Et le monsieur ne me connaissait pas du tout. Moi, je l'avais juste écrit un mail pour lui expliquer mon projet. Et à partir de là, en fait, je me suis lancée là-dedans. Et au fur et à mesure des pays, donc j'en ai fait 7. J'ai fait Rwanda, Ouganda et ensuite la côte Est, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud et Madagascar. Et à chaque fois, dans chaque pays, j'allais voir des structures de protection animale. Donc avec plus ou moins de succès, on va dire, comme en Ouganda où j'étais allée voir l'UWEC, qui est un espèce de zoo pédagogique qui est assez morbide au final. Et sinon, j'avais eu la chance de rencontrer aussi une personne qui tenait, qui gérait une île qui s'appelle Ngamba Island, en Ouganda aussi, et sur le lac Victoria, et qui en fait rapatrie des chimpanzés qui ont été sortis de conditions difficiles, des zoos ou de chez les particuliers, pour ensuite être mis dans des conditions plus naturelles. Donc en fait, en Afrique, j'ai fait ça tout au long de mon voyage. Après, selon les pays, ça a été plus ou moins compliqué. En Tanzanie, c'est très compliqué parce que c'est l'État qui gère ce genre de choses et ils sont assez frileux sur ce genre de sujet-là. L'Afrique du Sud, ça a été aussi compliqué, mais d'une façon différente parce qu'ils ont une gestion des populations animales qui sont assez controversées. Mais en gros, c'était vraiment de partir en Afrique pour expliquer ou montrer aux lecteurs du blog comment ça se passait concrètement sur place et de quoi il fallait se méfier et puis quelle action il fallait soutenir en fait.
Du coup, tu parlais de la réalité en Afrique, de la protection et de la conservation des animaux. Est-ce que tu as des mauvaises surprises ? Qu'est-ce qui t'a choqué ?
Ma première mauvaise surprise, ça a été en Ouganda. Je mets de côté le côté un peu politique de la conservation de l'espèce au Rwanda parce que c'est un peu compliqué et c'est un vaste sujet. Et du coup, on va partir sur le sujet politique. C'est pas forcément l'intérêt. Mais en Ouganda, en fait, à l'UWEC, c'est un espèce de parc zoologique, pédagogique. Et comme ça, a posteriori, je dirais que c'est peut-être aussi parce que culturellement, on n'est pas encore sur un pied d'égalité par rapport à ce qui doit se faire dans les parcs zoologiques. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Mais sur le moment, j'ai vraiment été dégoûtée de l'endroit où les animaux sont dans des espaces vraiment sales, qui font un peu insalubres. Et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que cet endroit-là avait, ou a toujours, s'il est toujours ouvert, a un intérêt pédagogique, mais moi j'y voyais vraiment pas le côté pédagogique du tout. Donc ça a été ma première mauvaise surprise. J'étais vraiment malade concrètement d'y être et de me promener là-bas, ça m'a rendue vraiment malade. Et on était censé rencontrer une personne qui était censée nous expliquer, et au final on a loupé le rendez-vous à cause de la pluie. Donc j'ai pas eu plus d'explications que ça. Après, dans les autres pays, Kenya, j'ai pas de mauvais souvenirs. En Tanzanie, ça a été la difficulté en fait de parler de ce sujet-là. Comme je te le disais, c'est assez sensible comme sujet. T'as pas mal de personnes, comme des conservationnistes, qui se sont fait virer du pays parce qu'ils parlaient un peu trop, en fait, de la condition de l'éthique animale en Tanzanie. Après, au Mozambique, c'est un peu plus compliqué aussi parce que c'est un pays qui a été en guerre pendant de nombreuses années. Donc là, c'est en train seulement depuis quelques années de repartir au niveau animal. Donc là encore, en fait, c'était compliqué de pouvoir parler éthique animale dans un pays où beaucoup d'animaux ont été éradiqués en fait à cause de la guerre, ce qui arrive souvent. Et en Afrique du Sud, alors là, en Afrique du Sud, c'est un vaste sujet. L'Afrique du Sud, c'est très politique, l'éthique animale. Enfin, je pense que c'est le pays sur le continent africain où la chasse pour les trophées, c'est le pays le plus important en fait sur ce sujet-là. Et ils sont dans une dynamique et un peu dans un cercle vicieux où où ils n'arrivent pas à se détacher de ce principe de chasse pour le trophée parce que ça fait rentrer énormément d'argent. Et ils se cachent un peu derrière ça pour dire que ça aide la conservation des espèces. Mais derrière, tu vas avoir des pratiques comme le canned hunting, je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est le fait d'élever des animaux, donc souvent c'est des fauves, des lions, de les élever pour en faire en fait de la chair à canon à la fin. Donc tu vas avoir le lionceau au début qui va être tellement mignon que ça va être dans des espèces de centres touristiques où les gens vont pouvoir le caresser. Après, tu vas avoir, il va grandir et tu vas avoir l'idée de pouvoir promener ton lion, donc tu vas le promener en laisse dans le parc. Et au bout d'un moment, quand il devient trop vieux et donc trop dangereux, ça va devenir une cible pour les chasseurs et donc ça va être du canned hunting. Donc en fait, ils sont enfermés dans des enclos fermés, donc impossible de sortir et de s'enfuir, et les chasseurs vont être là pour les tirer. Donc en fait, c'est juste pour le plaisir de tuer un animal, mais sans derrière la difficulté de la fuite probable. Donc en Afrique du Sud, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, malgré les différents documentaires qui ont été tournés sur le sujet. Et puis en fait, en Afrique du Sud, le problème, c'est que l'animal s'est vu comme un objet encore. Comme dans beaucoup de pays, hein, je crache pas forcément seulement sur l'Afrique du Sud, c'est le cas dans de nombreux pays, mais on voit l'animal en fait comme une données monétaires plus que comme un être vivant. Madagascar, je les ai trouvés vachement intéressés et eux, ils protègent beaucoup les lémuriens parce qu'ils savent que c'est une richesse pour leur pays et que ça emmène les touristes. Et en même temps, politiquement parlant, ils ne sont pas du tout aidés. Mais bon, ça c'est comme dans de nombreux pays en Afrique. Hein. C'est la politique en fait qui pêche beaucoup plus que l'humain, même si les deux sont un peu liés.
Qu'est-ce que tu aurais comme conseil quand on voyage pour pas encourager ce genre de pratique ?
Le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de bien se renseigner avant d'aller quelque part. Et puis surtout, de se poser des questions sur les pratiques. Les personnes, par exemple, qui vont aller nager avec les cétacés, par exemple. Ça me laisse un peu perplexe. De plus en plus, il y a des études qui montrent que c'est source de stress pour les animaux. En fait, la question qu'il faut que les gens se posent, c'est « Et si je me mettais à la place de l'animal, qu'est-ce que moi, je ressentirais ?» Est-ce que à un moment donné, les gens apprécieraient d'avoir quelqu'un qui débarque dans leur salon ou dans leur cuisine pendant qu'ils sont en train de manger et tourne autour d'eux comme ça? C'est hyper stressant, tu connais pas la personne et du coup, forcément, t'es dans un état pas naturel. C'est comme monter sur le dos des éléphants en Asie. C'est quelque chose qui se fait et qui se faisait culturellement pour les personnes qui habitent dans les pays en Asie du Sud-Est. Moi, je comprends pas que les gens, les Occidentaux, viennent en Asie pour monter sur le dos des éléphants. C'est quoi le principe, en fait? C'est quoi l'idée? Juste de se prendre en photo sur le dos d'un éléphant, je comprends pas, en fait, l'idée du tout. Tu peux aller dans des centres, et encore, il faut bien choisir son centre, parce que là encore, c'est une manne financière pour certains exploitants. Il faut bien que tu choisisses ton centre pour voir s'ils sont bien gérés, s'ils sont bien traités. Parce qu'en général, dans ces centres-là, pour que l'animal accepte qu'on lui monte sur le dos, il est brisé intellectuellement. Donc dès son plus jeune âge, il va être frappé, il va être maltraité, mais pour qu'il accepte en fait tous les traitements qu'on lui fait quand il y aura des touristes. Donc là, encore une fois, moi je suis pas contre ces centres-là, mais il faut pas monter sur le dos des animaux, enfin... Un type qui te monte sur le dos comme ça dans la rue, tu vas pas trouver ça normal. Faut toujours se mettre à la place de l'animal et faut toujours en fait se poser des questions et faire des recherches en amont à chaque fois que tu vas dans un endroit. C'est juste ça. Ça me semble basique, ça me semble logique, mais malheureusement, beaucoup de gens le font pas.
Je me posais la question, tu vois, parce que dans des cultures, par exemple, moi je suis allée en Mongolie et t'as le cheval qui est assez présent dans la culture nomade et quelque part aussi, je sais pas comment ils sont nécessairement traités ces animaux. Comment tu vois, toi, ce point de vue-là? Est-ce que dans ce cas-là, c'est ok, tu penses, de par exemple faire des balades à cheval dans la steppe ou est-ce que c'est un peu limite?
Alors, l'équitation, c'est un grand sujet de questionnement. Pour moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de monter sur le dos d'un cheval. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé de le faire, donc je veux pas non plus être hypocrite, tu vois, sur le sujet. Je l'ai fait, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec l'idée, en fait, d'utiliser un animal pour mon loisir. C'est pareil que d'aller dans les zoos. J'y ai bossé dans les zoos, mais moi, je suis plus pour les zoos où tu vas pas avoir de spectacle d'animaux, par exemple. En gros, c'est déjà assez difficile pour un animal d'être en captivité. Si en plus derrière il faut l'utiliser pour son loisir, voilà, faut réfléchir sur le sujet. Et pour l'équitation, c'est la même chose. Après, c'est une question de culture, hein. Je vais pas cracher sur un Mongol parce qu'il monte sur le dos de son cheval. C'est culturel. Il me semble pas que les Mongols maltraitent leurs animaux parce que c'est quand même, comme tu dis, quelque chose d'important pour eux dans leur déplacement, dans leur façon de vivre. Eux le font pas pour le loisir. Tu vois, ça dépend vraiment en fait de la pratique que tu as.
Donc tu t'étais intéressée un peu à ce qui se passait en Afrique et tu parlais du fait que maintenant tu es plus à regarder ce qui se passe au niveau national. Qu'est-ce que tu fais exactement?
Alors, je m'intéresse plus en fait à la manière dont on traite les animaux sauvages qu'on a en France. Donc, je vais être plus en veille des articles ou des communiqués de presse ou actualités d'associations comme la SPAS ou Férus qui s'intéressent la SPAS à toute la faune sauvage et Férus, ça va plutôt être ours, loup et lynx. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit c'est cool de s'intéresser aux espèces un peu comment dire, un peu drapeau, comme les gorilles, les chimpanzés, les éléphants, les tigres, les ours blancs, pandas, etc. En fait, toutes ces espèces dont on entend beaucoup parler, où il y a beaucoup de, où il y a beaucoup de fonds médiatiques autour. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement, en France, pour nos espèces nationales à nous? Comment est-ce qu'on les traite? Et est-ce qu'on est bien placé pour faire la leçon aux autres pays sur la manière dont eux traitent leur faune sauvage? Et à partir de là, je me suis un peu plus intéressée déjà aux loups, aux lynx aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'on avait des lynx en France. On en a, mais ils sont assez maltraités. Aux ours aussi. Et puis, en fait, à toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour. Après, est-ce que je suis objective sur le sujet? Je pense pas. Parce que moi, je suis pro-loup, pro-ours. Et je pense que la faute, elle est un peu partagée hein, sur le sujet du loup, la manière dont on le traite et le fait que les éleveurs veulent pas de loup en France. Je pense que c'est facile de dire que le loup est le problème, alors que la plupart d'entre eux c'est pas eux-mêmes. Enfin, c'est un vaste sujet. Mais à partir de là, je me suis dit, on est très mal placé en France pour faire la leçon aux autres pays, et c'est quand même important aussi de s'intéresser à nos espèces nationales.
Tu disais donc que l'éthique animale t'a amené vers la consommation responsable. Quel impact justement ça a eu sur ta vie quotidienne, cette prise de conscience de ta consommation?
C'est quelque chose d'assez graduel. Ça a commencé du coup par le végétarisme. D'abord arrêter de manger de la viande, ensuite arrêter de manger du poisson. Et puis après, c'est s'intéresser aussi à tout ce qui est consommation responsable. Donc arrêter tous les, par exemple, toutes les cosmétiques qui peuvent être dangereuses pour la planète. Ça, je me suis plus posé la question sur ce sujet-là quand j'ai commencé à voyager à vélo aussi avec mon conjoint. Souvent en bivouac, donc c'est-à-dire que souvent on se lave dehors en fait. Et l'idée de répandre des produits comme par exemple du shampoing ou du gel douche avec des produits toxiques, de le répandre directement dans la terre, ça avait. C'est bizarre parce que quand tu prends ta douche, de toute façon, l'eau, c'est la même chose, ça se mélange à n'importe quelle autre eau au bout d'un moment et tu pollues de la même manière. Sauf que là, en fait, c'était vraiment, il y avait un lien plus direct entre ce que je faisais et la terre qui était en fait à mes pieds, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, faut que j'arrête ces produits-là et si on se lave dehors, il faut que ce soit des produits plus respectueux de la nature. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était savon artisanaux, savonnerie artisanale, etc. Et puis, de fil en aiguille, ça a été le zéro déchet, même si j'en suis très loin et que je commence à peine, parce que c'est assez compliqué, je trouve, comme sujet, le zéro déchet. Et puis, ça a été de s'intéresser aussi à la permaculture, même si j'habite en appartement, ça n'empêche pas que tu peux commencer à réfléchir un peu sur le sujet, à manger local, bio, je mange bio depuis 5 ans, donc c'est quelque chose qui est pour moi naturel et ça me fait sourire quand on me dit que le bio ça coûte cher ou que voilà. Et du coup tout ça en fait c'est vraiment une pelote qui se déroule au fur et à mesure de tes lectures, au fur et à mesure de tes prises de conscience, etc. C'est un cheminement.
Je rebondis sur ce que tu disais, le bio ça coûte cher. Pourquoi ça te fait sourire?
Bah parce que c'est pas forcément vrai en fait. Après c'est en fait Ça dépend comment tu consommes. Si forcément tu continues à consommer des produits transformés, par exemple, moi j'achète pas de produits transformés. C'est que du produit, des légumes secs, des légumes. Quand on voit ma nourriture à moi, on peut se dire que je mange rien du tout, mais je mange beaucoup plus que la plupart des gens au final. Et ça me coûte moins cher parce que je mange pas de viande forcément. Et même si tu manges de la viande, ça peut ne pas te coûter plus cher si tu continues à réfléchir et à consommer moins de viande, par exemple. Si tu consommes de la bonne viande 2 fois par semaine, bah, ça te coûtera aussi cher, voire moins cher que si tu consommais de la mauvaise viande tous les jours à tous les repas. Et en fait, c'est juste ça. Ça me fait sourire parce que les gens se disent que bio, ça coûte cher. Oui, bio, ça coûte cher si tu continues à consommer comme quand tu vas à Carrefour faire tes courses. C'est normal.
Ouais, t'as raison, c'est une démarche globale en fait.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment repenser son alimentation. Et c'est pour ça que je trouve que le végétarisme et le véganisme ou végétalisme, ça a plusieurs bons aspects. Déjà, tu manges plus de viande, donc bon, voilà, et plus de poisson, donc t'es plus en train de donner de l'argent à ces industries-là. Mais en même temps, ça t'oblige à beaucoup plus réfléchir sur ton alimentation, parce qu'il faut que tu remplaces la viande. Donc en remplaçant la viande, tu vas passer aux protéines végétales. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand je vais chez des gens que je leur dis que je suis végétarienne, et ben ça les oblige à réfléchir en fait sur ce qu'ils vont faire à manger. Et j'ai souvent eu la phrase, c'est compliqué de te faire à manger. Ben non, en fait, ça te demande juste une réflexion un petit peu plus poussée sur ce que tu vas pouvoir faire à manger pour remplacer la viande. C'est juste ça. Et ça a plein de bons avantages d'être végétarien, végétalien ou végane, à tous les niveaux.
Est-ce que tu trouves que c'est plutôt facile d'être végétarien en France lorsque tu manges à l'extérieur?
Tu galères, moi je galère beaucoup dans certains restaurants à trouver quelque chose à manger. Je galérais moins sur le continent africain à trouver du vegan ou du végé plutôt qu'en France. Parce que tu as une grosse communauté indienne, aussi étonnant que ça puisse être, bah, tu as pas mal de Pakis et d'Indiens qui vivent en Afrique. Et du coup, tu vas avoir bah, des plats végétariens ou même beaucoup de restos indiens. Et j'ai moins galéré en 6 mois en Afrique que je peux galérer parfois quand on va manger en extérieur. Mais en France, on a vraiment du mal. Ça va que ça se déploie de plus en plus. Mais après, si tu habites dans une petite ville, bah, c'est un peu plus galère, quoi. Je pense que c'est aussi vachement lié à l'importance touristique de la ville où t'es. Plus la ville, elle va être touristique, comme La Rochelle, par exemple, c'est pas une grosse ville, mais comme elle est touristique, eh ben, t'as vachement de mixage. Et donc, forcément, t'as vachement de prise de conscience, de réflexion des gens, etc. Beaucoup plus que tu vas avoir dans des petits bleds. Si un jour tu es sur la route en road trip et que tu t'arrêtes dans un bled, bah bonne chance pour trouver de la bouffe végétarienne, tu vois. Après, tu peux toujours demander, tu vois. Moi, quand c'est pas la carte, ça m'arrive souvent en France de demander qu'ils me fassent un plat végétarien. Donc des fois, tu te retrouves avec des trucs ridicules. Et des fois, tu vois que déjà ils font l'effort et puis ils essayent pas de te la faire à l'envers au niveau du prix. Je me souviens une fois en Bourgogne à Cluny, on s'arrête dans un bistrot, je leur dis que je suis végé, ils m'ont fait une belle assiette d'assortiment, ils m'ont fait payer ça, je crois 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Mais voilà, parce que c'était logique en même temps, eux, leur coût de revient, il était pas énorme, c'était des champignons, 3 patates, des carottes, un peu de purée, un peu de machin. Bon ben voilà. Ils vont pas faire payer ça 15 balles. Enfin, c'était logique. T'as des gens honnêtes qui font l'effort et puis t'as des gens qui ont pas envie de se faire chier.
Je pensais que c'était plus développé en France. En fait, moi, ça fait longtemps que je vis plus en France. Du coup, je me rends pas compte. Mais j'avais l'impression, tu sais, avec tous les mouvements qu'il y a, que c'était plus développé. Mais effectivement, vu ce que tu dis, c'est vrai, en fait, c'est lié au tourisme.
Après, tu peux avoir, je suis sûre, hein, je dis ça, mais t'as des applications qui, un peu comme Apicao, qui te proposent des restos pour manger éco-responsable, pour manger végétarien, etc., etc. Et t'as des applis, quand je les regardais un peu, des applis comme The Place to Bio par exemple ou Fairtrip, et ben tu vas trouver au milieu de nulle part le petit restaurant qui fait du bio, du local, du vegan, du végétarien, comme ça au milieu de la France, au milieu de la Creuse, comme ça il est perdu, mais n'empêche que s'il existe, c'est parce qu'il y a des gens qui y vont. Et puis peut-être que c'est des néo-ruraux qui se sont dit tiens, on va aller habiter au milieu de nulle part et on va faire émerger ce genre d'idée-là, donc c'est cool aussi.
Je voulais voir avec toi aussi parce que forcément cette remise en question de ta consommation, ça a dû impacter ta manière d'appréhender le voyage et à quel niveau ça l'a impacté et comment en fait.
Ça a impacté ma manière de voir les choses à partir du moment où j'ai commencé à voyager à vélo. En fait, tu commences à vraiment réfléchir sur ton impact carbone quand tu commences à voyager plus lentement et à te rendre compte que c'est possible de voir des choses et de voyager sans forcément prendre l'avion. Donc c'est seulement ma première année où je prends pas l'avion du tout. L'année dernière, je l'avais pris une fois. Mais tout en réfléchissant derrière au fait qu'un seul vol en aller-retour, ça a dû me faire 2 heures de vol. T'as un impact carbone énorme qui au final défonce tous les efforts que tu peux faire à l'année. Et le voyage à vélo, je me suis rendu compte que je voyageais déjà différemment, que je voyais beaucoup plus de choses et j'ai apprécié et j'apprécie toujours énormément le fait d'être en mouvement perpétuel où tous les jours tu découvres en fait beaucoup plus de choses que si tu n'étais pas à vélo et que si tu avais pris seulement un avion pour aller d'un point A à un point B et te retrouver à devoir soit graviter dans la même zone, soit devoir prendre un bus qui ne te permet pas forcément de voir les choses ou de prendre un train qui ne te permet pas forcément de voir les choses entre le moment où tu es monté dans le bus ou dans le train et au moment où tu descends. Donc à partir de là, je me suis vraiment dit que le slow travel, c'était quelque chose que je voulais faire. Si c'est pas tout le temps, c'est le plus souvent possible. Et le voyage à vélo, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est pas forcément difficile physiquement. Ça dépend en fait des trajets que tu fais, hein, forcément du dénivelé que tu t'imposes. Mais c'est une manière de voyager qui est quasi méditative. Hein. Le voyage à vélo, et je pense que le voyage à pied, c'est la même chose. Tu prends le temps de regarder autour de toi. Et peu importe si tu vas pas vite. Enfin, franchement, c'est pas important d'en voir un maximum. Je pense que le plus important, c'est de profiter de l'instant présent. Ça fait très hippie quand tu dis ça comme ça, mais c'est vraiment ça en fait. Tu profites parce que t'es lent et tu prends le temps de regarder, tu prends le temps de sentir en fait l'ambiance qu'il y a autour de toi, beaucoup plus que si tu voyages autrement.
Quand tu voyages en mode slow, combien de temps toi tu pars à chaque fois ?
On part 3 semaines en général. Et cette année, je suis partie un mois. Moi, comme je ne travaillais pas, c'est sûr que c'est un avantage parce que je n'avais pas de date de retour. Donc cette année, j'ai laissé mon conjoint à Vienne. En fait, on est parti d'Italie, on est remonté Croatie, Slovénie, Autriche jusqu'à Vienne. Lui est parti prendre un avion à Munich pour rentrer. Et moi, comme je voulais pas prendre d'avion, j'ai continué en travers la Suisse et ça m'a pris à peu près 4 semaines en fait. Donc c'est sûr que ça oblige à faire des petits ajustements en fait. Tu peux pas. C'est sûr que si t'as que 2 semaines de voyage, il va falloir que t'ajustes un petit peu ton itinéraire. Ceci dit, peu importe où t'habites, tu auras toujours des choses à voir que t'as pas encore vues dans ta vie, même si c'est juste à côté de chez toi. Il faut aussi arrêter en fait de se dire que il faut forcément partir à des milliers de kilomètres pour être dépaysé, c'est pas vrai.
Et du coup, alors quel est, on va dire, l'un de tes plus beaux souvenirs de tes derniers voyages que t'as pu faire à vélo ?
Je pense qu'en général, mis à part les paysages qu'on peut traverser à vélo, c'est la rencontre parfois avec les gens. Cette année, on a eu des belles rencontres, rien que un des premiers jours. Notre premier jour de pédalage, on sort de Bologne et puis on s'arrête sur un parking pour se mettre de la crème solaire et on tombe sur un monsieur, on n'avait pas remarqué que c'était un parking de restaurant, et on tombe sur un monsieur qui nous invite à manger dans son resto comme ça gratuitement parce qu'il trouvait que ce qu'on faisait c'était bien. Et puis pour boucler la boucle de ce voyage-là, en arrivant à Genève juste avant de prendre mon train pour rentrer chez moi, avec mon vélo, j'ai fait tomber mes clés de cadenas. Donc mon vélo était accroché à l'arbre et en fait elles sont tombées dans une espèce de plaque grillagée et j'étais là à quatre pattes en train de regarder mes clés désespérée, pas pouvant les attraper. Et il y a un monsieur qui sort du magasin qui était juste derrière moi qui commence à me demander ce qui va pas, donc je lui explique et il me dit attendez-moi ici, je reviens. Et il revient peut-être 10 minutes, un quart d'heure après avec un hameçon, un fil de pêche, et il était là en train de pêcher mes clés dans la grille et tout, et il me raconte juste après que c'est vraiment le hasard qui a fait qu'il était là à ce moment-là, parce que normalement c'était pas son magasin habituel, mais que son magasin à lui était fermé et que du coup il était venu dans cet endroit-là pour faire ses courses plutôt que d'aller dans l'autre magasin. Et en fait, c'est ces souvenirs-là que je garde le plus, c'est les petits moments comme ça de destin en fait, totalement hasardeux, où tu te retrouves à rencontrer des gens pleins de gentillesse et qui vont soit offrir des trucs, soit aider. Et ouais, je pense que c'est ces moments-là, des voyages à vélo, que je garde le plus, en plus de tous les paysages qu'on peut traverser. C'est la gentillesse des gens. En fait, ça te rappelle que les gens sont pas forcément tous méchants et tous dangereux, tu vois. Comme souvent, on te le répète. Surtout qu'en plus, j'étais toute seule. Alors, le nombre de fois où j'ai pu entendre « Oh, tu pars toute seule, mais c'est dangereux !» Eh ben non, en fait. Tu rencontres des gens super, que tu sois toute seule, à deux, à dix. C'est top.
Quand t'étais seule, d'ailleurs, t'as bivouaqué ou t'étais en auberge ?
Alors, j'ai pas bivouaqué, je suis allée en camping parce que je suis quand même une grosse flippette. Et j'avais vraiment peur de dormir toute seule dans la tente. Déjà parce que les bivouacs, en général, c'est Dimitri qui les trouve. Lui, il est habitué à bivouaquer, donc il sait les bonnes zones et il connaît les bonnes et les mauvaises zones. Et puis, malheureusement, même si je dis qu'il y a pas que des méchants sur la planète, culturellement, en étant une femme, on est quand même habitué à entendre ce genre de choses. Et malheureusement, je pense que c'est quand même bien intégré dans ma tête encore aujourd'hui qu'il faut que je me méfie des gens. Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le courage de bivouaquer toute seule. Donc, je fais du camping en général quand je suis toute seule.
C'est quoi un bivouac d'ailleurs ?
L'idée du bivouac, c'est d'arriver en fait juste pour une nuit. Normalement, c'est sans tente. T'es censé juste t'installer comme ça dans un coin et repartir le lendemain juste avec ton sac de couchage, admettons. Donc, on fait du bivouac sous tente. C'est pas du camping sauvage. C'est vraiment l'idée de rester le minimum de temps. T'es là pour dormir et ensuite tu repars. T'es pas là pour flâner, quoi.
Quels sont tes conseils pour justement bivouaquer ? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire ça ?
Alors, en général, je parle pour Dimitri, hein, mais, parce que c'est lui qui trouve les bivouacs et qu'il m'a répété ça pendant 3 ans. Mais en général, t'es pas forcément obligé d'attendre le coucher du soleil. Nous, en Croatie, ça nous est arrivé en fait de nous poser en bivouac à 4 heures de l'après-midi et de rester là jusqu'au lendemain matin. Mais le plus important, c'est de prendre des petites routes éloignées. S'il y a des gens autour, bah, t'attends un petit peu qu'ils partent ou alors faut voir ce qu'ils font. Et faut vraiment bien se planquer. La plupart des bivouacs vont pas forcément chercher à bien se planquer, donc forcément tu seras repéré facilement. Donc l'idée, c'est vraiment te planquer au maximum. Quand t'es en voyage à vélo, ça peut vite être contraignant parce que t'as ton vélo à déplacer. Mais nous, ça nous est arrivé souvent d'avoir à courir dans les bois avec notre vélo le plus vite possible pour se planquer dans un coin un petit peu plus intime. Donc c'est surtout ça, se planquer au max. Après, il faut savoir que dans beaucoup de pays, le bivouac est interdit. Donc, il faut toujours être super prudent pour ce genre de choses et être sûr de son emplacement. Quitte à devoir changer au beau milieu de la nuit parce que c'est un peu craignos, faut être sûr de soi.
Quand c'est interdit, vous le faites quand même ou pas ?
On le fait quand même, ouais. On le fait quand même, mais Dimitri est beaucoup plus sûr de lui que moi. Aux Pays-Bas, l'amende, elle était quand même assez salée si on se faisait choper. Et moi, j'ai passé des sales nuits aux Pays-Bas en pensant à cette amende, mais lui est toujours vachement serein parce qu'il est toujours sûr de son coup, parce qu'on est toujours bien planqué. Après, il est interdit, parfois toléré, si t'arrives à la tombée de la nuit et que tu repars tôt le matin. L'idée, c'est vraiment pas non plus de rester sur place pendant 3 jours, parce que sinon, c'est plus du bivouac. Et surtout, de respecter l'endroit, c'est le plus important. Je pense que c'est beaucoup plus toléré si tu te fais choper, mais qu'autour de ça, ils voient que tu fais gaffe à tes déchets et que c'est pas dégueulasse autour de toi et que tu mets pas le bazar. Je pense qu'ils seront plus à même de te laisser partir en te disant juste... c'est pas un endroit pour bivouaquer, va-t'en, plutôt que de te mettre une amende directe.
Tu parlais du fait que vous faites attention à respecter les endroits où vous vous posez. Tu as des conseils, des petites astuces utiles quand on veut faire du bivouac et laisser l'endroit tel qu'on l'a trouvé ?
Eh bien, j'ai un bon bouquin à vous conseiller qui s'appelle « Comment chier dans les bois », qui est pas mal. Et en fait, c'est des principes assez simples. C'est comme quand t'es chez toi, en fait, tu vas pas laisser des déchets partout par terre. Donc, t'as un sac poubelle pour mettre tes déchets. Pour ce qui est de la nourriture, moi, je conseille pas forcément de faire des feux parce que tu sais pas toujours si ça risque pas de prendre et du coup... d'être un peu trop, comment dire, si ça risque pas de s'enflammer autour de toi, donc tu fais pas de feu, t'as des réchauds à gaz, c'est très bien les réchauds à gaz quand t'es en vélo, c'est pratique. Et puis voilà, sinon en fait, de se comporter comme un être civilisé, je dirais, de faire attention à la nature autour de toi.
Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de voyager à vélo?
Mon conjoint. Dimitri voyage à vélo depuis une dizaine d'années déjà, donc c'est quelque chose qu'il adore faire et moi que j'avais jamais fait avant qu'on soit ensemble. Et la première année, j'avais un peu peur en fait du voyage en lui-même, de l'exercice physique que ça allait être, parce qu'on fait quand même du vélo 6 à 8 heures par jour, alors faire ça pendant 3 semaines, j'avais un peu peur. Mais au final, c'est lui qui m'a confortée dans l'idée que c'était génial le voyage à vélo et que j'allais adorer ça. Et au final, il avait raison, c'est top. C'est vraiment un des meilleurs moyens de transport pour faire du voyage.
Est-ce que ça demande une préparation particulière?
Ça dépend de ce que tu décides de faire. Si tu fais un voyage, par exemple, l'année dernière, on était parti de Metz et puis on était remonté vers Amsterdam en passant par l'Allemagne. Là, c'est des pistes super plates. T'as pas besoin de préparation physique particulière. Cette année, on a fait énormément de dénivelé, on a monté des cols et du coup, là, la préparation physique, elle n'est pas pareille. Je pense qu'il faut faire un minimum de sport et si t'en fais pas, il faut y aller doucement. C'est comme tout, faut pas que tu fasses énormément de kilomètres dès les premiers jours si t'es pas préparé physiquement parce que ton corps va pas suivre et même ta tête au niveau du mental. Si t'as pas un gros mental, tu risques de vite t'abandonner. Donc, je pense pas, honnêtement. Enfin, je dis toujours, si moi je suis capable de le faire, les autres sont capables de le faire. Donc, je pense pas qu'il faille une grosse préparation physique, même si moi, à côté de ça, je suis quand même assez sportive, mais je pense pas que ça demande non plus de préparation physique énorme pour réussir à monter sur un vélo et à pédaler.
Du coup, c'est ton copain qui t'a fait découvrir le voyage à vélo. Est-ce que, comme toi, ça découle d'une prise de conscience écologique ou c'est plus un intérêt pour le vélo?
C'est plus intérêt pour le vélo. Pour le coup, Dimitri, il a du mal en fait à remettre en question le mode de vie dans lequel il est depuis toujours, donc prendre l'avion. Même s'il comprend mes motivations du végétarisme, il comprend ma motivation de ne pas prendre l'avion, c'est quelque chose que lui, il n'a pas intégré pour le moment. Même si à côté de ça, il fait des efforts, il n'est pas végétarien, mais il mange beaucoup moins de viande qu'avant. En fait, je dirais que je vis avec une personne qui est l'archétype de ce qu'il faut modeler en fait au fur et à mesure. Et je comprends, du coup, j'ai vachement de respect pour les gens qui change pas pour le moment. Parce que je pars du principe qu'on vit tous avec notre conscience propre et que tu peux pas obliger les gens violemment à changer. Et ça, je le vois avec mon mec. Tu peux pas lui gueuler dessus et lui dire arrête de bouffer de la viande, arrête de prendre l'avion, ça marche pas parce que les gens se braquent. Donc c'est intéressant, c'est un peu mon étude sociologique, mon mec. C'est comment dire la vignette du reste du monde.
Quelles sont tes stratégies pour justement essayer de lui faire peut-être prendre conscience ou changer certaines choses?
C'est pas forcément des stratégies, je dirais que c'est quand même assez long, hein. C'est assez long et des fois c'est pénible parce que t'es assez frustré. En fait, tu te frustres à essayer de forcer les gens à changer. Des fois, moi, j'ai plus envie, hein. J'ai plus envie d'essayer parce que ça me saoule de voir que les choses changent pas au rythme où moi j'ai changé. La plupart des extrêmes oublient souvent d'où ils viennent et oublient qu'eux aussi, ils ont mis longtemps à changer. Ils ont été plus rapides que les personnes qui n'ont pas changé aujourd'hui. Mais n'empêche qu'ils ont été lents aussi. Donc, faut accepter que les gens soient lents, même si aujourd'hui on n'a plus le temps que les gens soient lents. Mais après, c'est en fait dans ce que je fais, les bouquins que je lis, ce que je lui raconte. La dernière fois, je lui ai parlé d'anarchisme et il a eu peur. Il m'a dit, oh là là, tu vas devenir une grosse anarchiste. Moi, je veux pas. Et je lui ai expliqué ce que c'était. Et du coup, il a un peu plus compris. En fait, c'est à force de dialogue, je pense. Le dialogue, c'est important. Faut parler aux gens.
Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à partager pour voyager en ayant un minimum d'impact sur la planète?
Arrêtez de prendre l'avion, c'est la première chose. Même si on en a discuté avec pas mal d'amis et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire à l'idée de devoir arrêter de prendre l'avion. Pour eux, c'est une frustration en fait, parce que c'est devenu un droit en fait de prendre l'avion. On est suffisamment riche pour prendre l'avion maintenant, donc on peut le prendre, donc on doit le prendre, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc en fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de partir de chez eux et puis de tracer des cercles autour de chez eux au fur et à mesure, de les agrandir, de s'intéresser un petit peu plus à notre culture nationale à nous, parce qu'il y a des gens qui partent en voyage, qui connaissent mieux les autres pays que le leur, et je trouve ça un peu paradoxal d'aller dans les pays frontaliers, d'aller beaucoup moins loin, de prendre le train, c'est beaucoup l'impact au niveau carbone est beaucoup moins fort. d'essayer le voyage à vélo, même si heureusement, moi je le vois aussi sur le blog, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de cyclotouristes. D'essayer le voyage à pied aussi, même si c'est forcément demandeur au niveau du temps. Au final, de repenser totalement notre culture du tourisme, de réfléchir autrement et de sortir un petit peu de l'idée en fait qu'il faut forcément partir loin, c'est ce qu'on disait, pour voir des choses différentes. Et surtout d'arrêter de se baser sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et d'arrêter d'envier ceux qui sont partis à l'autre bout du monde et qui te montrent leurs photos super exotiques de Bali ou je sais pas où. Il y a des endroits super exotiques en France, il y a des endroits super exotiques dans les pays limitrophes. Il faut juste aller voir. C'est juste ça. De plus en plus de personnes s'intéressent un peu à ce sujet-là de voyager sans prendre l'avion et de l'impact que tu vas avoir quand tu prends l'avion. Après, il faut que les gens arrêtent de se sentir attaqués parce qu'on leur dit de réfléchir. C'est vraiment pas ça. On te demande juste de te remettre en question. Pas forcément c'est pas une attaque personnelle. Remets-toi juste en question, pose-toi des questions sur ton mode de vie, c'est juste ça.
Ouais. Peut-être qu'aussi, si les gens réagissent comme ça, c'est que quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils ont la culpabilité, enfin, ils savent.
Ouais, je pense qu'ils savent, hein. Ils savent, mais c'est ça en fait, je pense que c'est ça, ouais. Qu'ils se sentent attaqués parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose qui est pas top pour l'avenir de la planète.
Est-ce que tu as des livres, des podcasts, des personnalités ou autres à conseiller pour justement accompagner les auditeurs dans la réflexion sur la transition écologique et ou le voyage?
Au niveau voyage, j'aurais pas grand-chose à proposer parce que je pars du principe que c'est aussi une réflexion personnelle à mettre en place. Et en fait, ça se fait aussi surtout par les lectures. Alors, évidemment, je conseille tous les bouquins de Pablo Servigne, Gautier-Chapelle, Raphaël Stevens sur la collapsologie parce que ça permet de comprendre le monde dans lequel on vit. À mon avis, tout est lié, donc tu peux pas faire une transition écologique et réfléchir à ta manière de voyager sans comprendre l'impact que ça va avoir écologiquement parlant, mais aussi de la société dans laquelle tu vis en fait. C'est une réflexion un peu philosophique sur ta manière de vivre et ça passe par la lecture de beaucoup de bouquins et pas forcément que des bouquins sur la transition écologique. Moi personnellement, à part Pablo Servigne, j'ai pas lu de bouquins sur la transition écologique. On m'en a conseillé beaucoup, comme ceux de Naomi Klein, par exemple, mais que j'ai pas lu pour l'instant. Je lis beaucoup plus d'articles. Donc, je conseille de lire, par exemple, de se faire un petit feed sur des outils de veille avec des médias comme La Relève et la Peste, Slate, Social Terre, Uzbek Erika, ce genre de choses qui vont parler pas forcément que d'écologie, mais qui vont parler de faits de société. Et ça permet de nourrir, en fait, sa réflexion sur sa manière de vivre. Après, je m'intéresse aussi beaucoup au mouvement anarchiste. Alors ça peut être un gros mot pour les gens, anarchisme, mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est que le mouvement anarchiste. Moi, je l'ai découvert un peu mieux dans les bouquins de Pablo Servigne. Et après, en lisant des philosophes et sinon des bouquins, par exemple, d'anarchistes comme Kropotkine. Et en fait, l'anarchisme, c'est l'égalité, c'est l'équité. Et j'ai eu la surprise de voir hier, en regardant les stories, de Partager C'est Sympa, qui est un compte Instagram que je conseille à tout le monde de suivre, qui parlait d'anarchisme vert. Donc c'est quelque chose qui commence à sortir un peu. On considère plus l'anarchisme comme un gros mot. Et c'est, je pense, un modèle de société qui est intéressant à creuser, donc au niveau égalité et équité. Donc les bouquins sur l'anarchisme, après ça dépend des bouquins, mais plutôt les bouquins anciens sur l'anarchisme aussi, il faudrait s'intéresser à ça. Sinon, il y a des BD aussi qu'on m'a conseillé. C'est quelque chose d'un peu plus léger, mais une BD qui s'appelle Le Retour à la Terre, qui est intéressant et sur l'écologie. Sinon, comme je le disais, des magazines ou des podcasts comme celui d'Ouzbek Erika, qui font aussi des podcasts super. Magazines comme Social Terre ou Ballast, qui vont être plutôt sur la société. Sinon, le podcast de France Inter, La Terre au Carré, est super intéressant aussi sur tout ce qui est question écologie et solutions à adopter. Suivre aussi les mouvements ANV, COP21, Extension, Rébellion, qui sont sur des idées de désobéissance civile, pour que les gens se réveillent un petit peu et surtout pour que les politiques se réveillent un peu. Et puis après, au niveau documentaire, il y en a beaucoup, mais je trouve qu'il y en a un qui est très intéressant, c'est L'homme a mangé la terre, qui permet en fait de comprendre comment on en est arrivé là grâce au sacro-saint capitalisme. Ça fait vraiment une grosse liste de courses, mais en fait, après, c'est un début, je pense, pour trouver ses propres ramifications de réflexion et partir dans des sujets qui nous intéressent personnellement. L'anarchisme, ça va pas intéresser tout le monde, mais c'est quand même un sujet auquel il faut porter un petit peu d'attention, je pense.
J'avais pas encore entendu parler justement d'anarchisme vert.
C'est la première fois que je voyais ça hier et ça m'a fait plaisir de le voir parce que ça veut dire déjà que on considère de moins en moins l'anarchisme comme quelque chose de négatif. On a vite utilisé le terme de manière négative et puis les anarchistes qui savent pas forcément ce qu'est l'anarchisme ou alors les anarchistes un peu extrêmes donnent une mauvaise image du mouvement. Moi, je me considère pas comme anarchiste, mais je considère que le mouvement anarchiste a beaucoup d'intérêts positifs. Et il faut s'intéresser à ce mouvement-là qui va plutôt promouvoir l'égalité et l'équité. Forcément, il y a des côtés qui sont moins réjouissants, mais on n'est pas obligé non plus de tout prendre dans ce mouvement-là pour en créer un, justement, qui est beaucoup plus positif, comme l'anarchisme vert, où c'était une conférence que je crois qu'il s'appelle Vincent, celui qui fait partager, c'est sympa. Et donc, il montrait cette conférence-là qui avait lieu à Paris et qui parlait d'anarchisme vert dans les côtés égalité, équité, partage, entraide. Et en fait, c'est ça l'anarchisme, c'est de l'entraide, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour créer une société positive, bah, il faut que les gens s'entraident. Et c'est vraiment ça. Et c'est aussi ce que Pablo Servigne relate dans ses bouquins comme l'entraide, l'autre loi de la jungle. On ne va pas s'en sortir si on n'est pas plus soudés. Si on ne s'aide pas les uns les autres, on ne se sortira pas du merdier dans lequel on s'est foutu, en gros.
Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer ou bien une question que je ne t'ai pas posée ?
La seule chose que je pourrais dire pour finir, c'est posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur tout ce que vous faites, même si c'est difficile de le faire au quotidien, même si ça peut être vite contraignant de se poser des questions à chaque fois qu'on entreprend quelque chose. Il faut se demander quel impact ça va avoir sur vous, mais aussi sur les autres. Et puis, bonne chance, parce que c'est pas facile d'avoir ce genre de réflexion-là, et des fois, ça fait mal. Culturellement parlant, t'es obligé en fait de te refaire une culture propre en sortant de la culture qu'on t'a imposée dès que t'étais gamin. Donc c'est pas facile de réussir à prendre de la hauteur et à réfléchir sur son mode de vie et sa manière d'être parce que ça t'oblige à renoncer à beaucoup de choses et en même temps à en accepter et à en construire d'autres. Tu te crées ta propre culture et tu te crées ta propre réflexion et je pense qu'on a longtemps oublié de le faire en fait ces dernières années et aujourd'hui ça revient, aujourd'hui de plus en plus de personnes apprennent à réfléchir par eux-mêmes et surtout ont du sens critique. Et il faut avoir un maximum de sens critique aujourd'hui.
Merci beaucoup Adine pour ton temps et pour cet échange vraiment très intéressant.
Merci à toi, c'était super cool.
J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos suggestions d'invités ou me faire part de vos remarques et feedback par email. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. À la prochaine !